Rebecca Chaillon, tu es performeuse, autrice et metteuse en scène. Ta compagnie s'appelle Dans le ventre et tu es en tournée pour interpréter ton spectacle Carte noire nommée Désir. Tu t'entoures de 7 performeuses pour mettre en scène la construction des corps et des identités afroféministes. Sur scène, on retrouve des chanteuses, des danseuses, des actrices, des circassiennes. Comment puisses-tu dans toutes ces disciplines pour faire vivre la performance collective ?
L'idée, c'était de convoquer plusieurs arts, des disciplines où chacune n'était pas forcément attendue en tant que femme noire. Alors après, il y a une circassienne, il y a une chanteuse lyrique, une céramiste, une fakir, et puis des comédiennes aussi qui performent. L'idée, c'était de parler de cet endroit d'isolement, d'évoquer cet isolement qu'on ressent dans nos disciplines. Et comment on travaille ensemble, je crois que chacune propose de l'endroit d'où elle vient et avec ses compétences.
Et c'est ton histoire personnelle qui est devenue un moteur et une source de création. Si on fait le récit de ta vie, tu as grandi en Picardie, entouré de tes parents, martiniquais, puis tu as rejoint Paris pour commencer des études de théâtre. À quel moment de ta vie le théâtre s'est imposé à toi et pourquoi c'est à travers cet espace que tu as choisi de t'exprimer et de porter la voix des femmes afrodescendantes ?
Bon, ça s'est pas fait en un seul coup. Hein. J'ai commencé peut-être quand j'étais en CE2 et j'ai jamais arrêté dans des troupes amateurs, au lycée, au conservatoire, partout. Le déclencheur, ça a été la professionnalisation, je pense, puisque ça semblait toujours être une passion, mais pas un métier et pas une carrière non plus. Enfin, je me projetais pas dans une carrière, mais il se trouve que quand j'avais 19 ans, quand j'étais en fac à la Sorbonne, en art du spectacle, mon prof était aussi directeur de compagnie que j'ai fait du théâtre Forum et que l'accès à la professionnalisation, je suis pas bien réveillée, cet accès-là donne de la légitimité et se dit qu'on peut, qu'on est reconnu et qu'on est désiré. Donc à partir de là, ça a été possible d'envisager de prendre de l'espace pour créer mes propres objets à moi, avec mes propres obsessions, parce que je voyais bien que j'étais toujours un peu un train de retard quand j'essayais de m'attaquer à ce qui était déjà constitué comme répertoire théâtral. Voilà. Donc je sais pas à quel moment c'est devenu fondamental, j'ai l'impression que c'est toujours un peu là. On me dit que j'ai toujours raconté beaucoup d'histoires et j'ai toujours essayé de m'échapper de chez moi, donc j'ai l'impression que c'est un peu la suite.
Et en choisissant de livrer ton récit sur une scène de théâtre, as-tu eu le sentiment de t'emparer d'un outil dont la puissance et la force peuvent être sous-estimées en général ?
Bon, mon récit, je ne sais pas s'il est hyper fort. Je sais juste qu'il est peu écrit il est peu retracé dans des textes. Il est peu présent quand je vais dans des festivals ou quand je vais au théâtre. Je ne le trouve pas hyper présent. Donc, je me dis, puisque je suis là, je vais écrire ce qui me semble manquer et puis ce qui me donne de l'urgence à aller au plateau. J'ai l'impression que ça sert à rien, encore pour le moment en tout cas, ça sert à rien d'y aller pour être léger. Tout ce que je ressens de l'extérieur que je peux trouver violent ou qui me donne envie de réagir, j'ai la chance d'avoir le média de la scène pour retranscrire les violences que je reçois ou que je ressens et les endroits où j'aurais envie d'agir ou de transformer.
Et dans une société où les voix des personnes racisées et issues des minorités ont du mal à trouver des espaces, de quelle manière le théâtre peut-il devenir un espace d'ouverture ? Pour toi et les performeuses, comment vient-il vous aider à vous réapproprier votre corps et votre histoire ?
Je pense que c'est un média parmi d'autres. La littérature en est un, le cinéma en est un autre. Y a énormément d'endroits où nos histoires de femmes noires ou de personnes non blanches peuvent exister. Moi, je choisis ce média parce que c'est le mien et celui que je connais le mieux. Comment ça peut se faire ? J'imagine dans la distribution des richesses, dans le sens où il y a des sommes qui sont allouées à la production et je pense qu'il faut qu'elles soient partager avec égalité, c'est bête à dire, mais aussi la présence sur les plateaux en termes de visibilité, mais aussi qui produit, qui programme, qui accompagne les projets, qui les diffuse, qui fait des relations publiques, c'est un peu partout que ça doit se diffuser. Pour le moment, ça vient de Bon, ça, voilà, ça commence à venir de la scène, de qui écrit ou qui met en scène et qui joue, mais c'est parfois encore trop, comment on dit, fait avec parcimonie, je dirais. Une personne là, et puis souvent instrumentalisé. En fait, je vais décider que j'ai besoin de toi, et soit je te gomme ton origine sociale ou ton origine ethnique ou ta sexualité, soit je la gomme, mais je sais que tu es présent, soit je vais parler de ta vie et de tes problèmes ou de des choses qui te concernent à ma manière. Donc je dirais que c'est un travail complexe et long de trouver comment partager ce pouvoir-là, ce pouvoir de prendre la scène et de raconter nos histoires.
Et ton spectacle met en scène des interprètes afro-féministes, leurs identités et leur corps. Il vient questionner la place que la société occidentale, majoritairement blanche, assigne aux femmes noires. Dans ton expérience personnelle, avec quels repères et quels modèles es-tu parvenue à t'affirmer dans ton identité ?
Alors, les interprètes, elles sont... je ne sais pas si elles se définissent, c'est toutes comme afro-féministes. D'abord, elles sont noires et métisses. Elles vivent pour la majorité en France. Parfois, elles ont vécu dans leur pays d'origine. Et parfois, elles vivent aussi actuellement là en Suisse ou en Belgique. Donc, on a des vécus un peu différents. Certaines ont vécu dans des familles noires et d'autres dans des familles blanches. Il y a des situations d'adoption. Donc, voilà, on a vraiment des parcours qui nous mènent toutes aujourd'hui à être assez engagées sur les questions. Alors, je ne sais pas si c'est d'afroféminisme directement, mais il y a quelque chose de féministe. D'antiraciste et une recherche qui se fait entre les deux. Bon, on le fait beaucoup ensemble, en lisant, en échangeant. Et pardon, j'ai plus la suite de ta question.
Comment toi, tu es parvenue à t'affirmer ? Avec quel repère, quel modèle tu as grandi, peut-être dans la littérature, le cinéma ?
Bon, j'ai grandi, moi, avec beaucoup la pop culture, enfin, avec la télé, à mort. Beaucoup, beaucoup de télé, de Walt Disney, de trucs vraiment pas très glorieux. Mais en gavage, hein, vraiment, de dessins animés et tout ça. J'ai beaucoup lu, mais j'ai pas lu, j'ai l'impression, ce qu'il fallait. Enfin, ce qu'on attendait de moi. Donc, je me suis rattrapée en arrivant à la fac, quand j'ai vu que j'avais un gros TGV de retard. Pour atteindre une sorte de culture mainstream, enfin, en tout cas, une sorte de culture légitime, quand on est à la fac, en art du spectacle, à la Sorbonne, il faut quand même avoir lu certaines choses. Mais je crois que j'ai toujours réussi à arnaquer tout le monde, parce que je crois que j'ai pas lu ni un Molière, ni un Shakespeare en entier. Voilà. Peut-être... Bon, après, j'ai l'impression de me répéter, mais les œuvres, pardon, qui m'ont déclenché une certaine prise de conscience et de réflexion, il y a, je vais dire, Too Much Pussy, d'Émilie Jouvet, sur tout ce qui est autour des sexualités, et puis des corps lesbiens, queer, bon, voilà. Ouvrir la voie, forcément, d'Amandine Gay, qui est un documentaire autour des femmes afro-descendantes. Et c'est un film d'entretien auquel j'ai participé. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup remué. Ne suis-je pas une femme, de Bell Hooks. Voilà, ça a été très fort aussi. Et puis, Angela Davis, Audre Lorde, Aimé Césaire... Wendy Delorme, bon voilà, plein d'ouvrages autour de moi, et puis la rencontre avec le collectif RERQ, enfin bon, en fait c'est plein de choses qui sont venues, je crois, se croiser dans mon parcours, puisque je me sentais aussi bien concernée par les luttes féministes que lutte anti LGBTQI-phobie, et puis le racisme, et puis le fait d'être grosse aussi, enfin bon, il y a plein de chemins, et j'ai la chance d'être en région parisienne, et de côtoyer des milieux militants, engagé où la réflexion est continue. Donc plus que les livres encore, ces rencontres avec ces personnes engagées, même lors de soirées, justement, c'est ça qui m'a beaucoup nourrie. Et puis je dois beaucoup à toutes ces communautés qui réfléchissent en non-mixité aussi pour mieux vivre ensemble.
Et tu viens d'en parler justement du documentaire Ouvrir la voie, réalisé par Amandine Gay. Il est sorti en 2017 et donne la parole à 24 femmes afro-descendantes, et justement tu y as participé. Il questionne la difficulté d'être une femme noire en Europe et montre la discrimination subie et l'invisibilisation de la société. J'ai lu que ce projet documentaire avait été un moteur pour la création de ton spectacle. Quel message parviens-tu à faire passer avec un spectacle de performance et que tu ne pourrais pas transmettre avec des mots ?
Moi, je ne suis pas encore bien consciente de tout ce qu'on fait passer à travers le spectacle Carte Noire. Je sais que là où le film d'Amandine m'a influencée, c'est dans l'acceptation d'être un groupe noir et de ne pas en avoir peur, d'un groupe de femmes noires et de ne pas en avoir peur. De ne pas me dire, oh mon Dieu, non, du communautarisme, ou comme quelque chose de négatif. Ça, ça m'a aidé à rendre la chose puissante et positive, en tout cas, de dire que j'en avais besoin. Parce que c'est quelque chose que, évidemment, j'ai fui longtemps pour ne pas faire peur ou longtemps pour ne pas montrer un refus d'intégration à la culture française qui voudrait que je sois mieux dans le fait d'être éclatée dans différents groupes et d'être tout le temps en réflexion d'une diversité dont je serais un peu responsable, en tout cas. J'ai l'impression que ce qu'on peut lire à travers les différentes performances ou les différents textes, bah, c'est des endroits de sororité qui ne sont pas toujours évidents, que même si c'est un mot d'ordre, bah, y a aussi, c'est aussi des espaces où on peut se détendre et où parfois il y a pas de la violence, mais des choses difficiles qui ressortent, qui ressurgissent et on sait à la fois qu'elles seront bien accueillies et bien prises en charge par le groupe. Qu'on aura ces temps où on pourra échanger sur ce qui se passe et pourquoi on agit. Dans le spectacle, je pense que transparaît beaucoup de... Bah aussi d'aigreur, de cynisme, d'envie de titiller les publics. Ouais, je crois qu'il y a envie de rencontrer, de pouvoir porter les textes bien haut et fort en se disant « Voilà, je te livre un poème cette fois-ci parce que... j'ai pas envie de débattre, et pendant 2h15, là, on donne, et tu pourras pas me couper la parole. » Voilà, il y a quelque chose là-dedans. Mais c'est encore frais pour moi, parce qu'on est au début des dates, et qu'on n'a pas encore tout trouvé, ou tout, voilà. Et j'espère qu'on trouvera pas tout de suite, mais bon, voilà.
La mise en scène est un récit personnel, intime, qui appartient à toutes les femmes afrodescendantes et s'imbrique donc dans une histoire universelle. Mais toi, quand tu montes sur scène, à qui veux-tu t'adresser en premier ?
Bah, pour ce spectacle-là, le point de vue, c'était de se dire, tiens, et si je faisais un spectacle dont, pour une fois, on assume le point de départ qui est d'écrire du point de vue d'une femme noire. Je peux pas mentir, moi je suis une femme cis, donc après je côtoie beaucoup de personnes trans et non-binaires et plus autour de moi, donc j'avais envie de m'adresser à cette communauté-là et à une communauté de personnes non-blanches aussi. Voilà, donc ça c'est mon point de départ pour ce spectacle. Mais en vrai j'espère, oui, rencontrer un maximum de personnes et que le spectacle puisse être un déclencheur de discussion pour tout le monde ou un déclencheur de réflexion pour tout le monde.
Une toute petite dernière question, l'air libre, le théâtre donc, dans lequel vous interprétez le spectacle « Carte noire nommée désir », écrit « C'est une tentative d'œuvre qui n'épargne ni les oreilles ni les yeux ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que l'on peut ressentir en tant que spectateur, spectatrice, pendant l'expérience de ce spectacle ?
Oh bah, faut venir voir, ça j'ai pas d'autre chose à vous dire. Oui... Pour les yeux et les oreilles, il y en a à voir, oui, ça c'est sûr, il y en a à écouter. Il y a des textes, du chant, il y a du cirque, il y a de l'émotion, en tout cas, il y a du... Ça prend des risques, voilà. Je ne peux pas en dire plus, je pense qu'il faut venir voir par soi-même.
Merci Rebecca Cheyon pour ces mots. Ton spectacle s'intitule donc « Carte noire nommée désir » et tu es en représentation à l'air libre aujourd'hui, vendredi 19 novembre à 21h, et demain, samedi 20 novembre, à 18h, dans le cadre du Festival du TNB.
Merci beaucoup.